efficacement vos projets en toutes circonstances grâce à une épargne sécurisée Suno Assurance qui vous propose Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Les 23 et 24 février dernier, le Maroc a accueilli les deuxièmes assises nationales du médicament et des produits de santé avec une thématique cruciale pour l'Afrique, la lutte contre les médicaments falsifiés. Cet événement a débouché sur la signature de la résolution de Rabat, entente conclue entre le Maroc et 16 États africains, des accords bilatéraux pour renforcer donc cette lutte contre les médicaments de la rue et criminaliser enfin ce trafic qui est en plein essor partout dans le monde. Rappelons que ces faux médicaments sont soit falsifiés, soit sous-dosés, parfois sans principe actif et même, dans le pire des cas, extrêmement toxiques, de véritables poisons. Selon les estimations de l'OMS, il ferait plus de 700 000 morts par an dans le monde et ce chiffre pourrait être bien plus important. Ces faux médicaments, on les retrouve un peu partout, hein, dans tous les pays, dans les marchés de rue, mais également dans les circuits officiels. Et malgré ce terrible constat, la lutte contre ces médicaments falsifiés ne semble pas être une priorité pour de nombreux États. L'initiative du Maroc arrive donc à point nommé pour rappeler aux chefs d'État africains qu'il faut agir à tous les niveaux pour lutter contre ce fléau. Alors, que peut changer la résolution de Rabat? Pourquoi certains États africains l'ont-ils signée? Qu'est-ce qui a évolué en matière de lutte contre ces médicaments falsifiés sur le continent? Compte rendu avec Igor Strauss, qui était à Rabat pour Priorité Santé.
Ce n'est pas un vrai problème ici au Maroc, puisque le circuit du médicament est contrôlé, encadré par la législation, par la réglementation, également par les organismes de contrôle. Nous avons le laboratoire national de contrôle, mais nous avons également des laboratoires d'appréhension de la fraude. Mais la menace de la contrebande est présente, puisqu'il y a toujours au niveau des frontières des possibilités d'infiltration de médicaments qui sont automatiquement appréhendés et détruits dès qu'ils sont introduits sur le sol national. Très souvent, des fois, le sol peut être un sol de transit vers d'autres pays. C'est pour cela que la dimension africaine est importante pour traiter ce sujet aujourd'hui.
C'était Anas Doukali, le ministre de la Santé du Maroc. Igor Strauss, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour à tous.
Vous étiez à Rabat la semaine dernière pour assister à cette conférence sur le trafic de médicaments falsifiés qui a donc abouti à la signature de la résolution de Rabat. De quoi s'agit-il exactement?
Eh bien, vous l'avez compris, le but c'est de renforcer la lutte contre le trafic de médicaments falsifiés en partageant des informations sur ce trafic, en renforçant les contrôles aux frontières, en encadrant davantage le marché du médicament dans les différents pays et aussi et surtout en criminalisant enfin ce trafic en adoptant une loi type. Aujourd'hui, les peines sont tellement faibles lorsqu'elles sont prononcées qu'elles ne dissuadent absolument pas les trafiquants. Pire encore, cette absence de peines lourdes encourage le trafic. Certains trafiquants de drogue, par exemple, se lancent dans le trafic de médicaments qui est beaucoup plus rentable que le trafic de stupéfiants et quasiment sans risque de condamnation.
Alors, quels sont les États qui l'ont signé?
Eh bien, 16 États africains l'ont signé, on peut en citer quelques-uns. Le Bénin, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Gabon, le Burkina Faso, le Tchad et j'en passe. En tout, 9 ministres de la Santé et un vice-ministre étaient présents, ce qui témoigne d'un réel intérêt pour cette problématique, au moins en théorie, Caroline.
Alors, est-ce que le Maroc, qui accueillait donc ces entretiens, cette conférence, est concerné par le trafic de faux médicaments?
Eh bien, n'en déplaise à un responsable de la pharmacie du Maroc qui a affirmé devant une salle médusée que ce trafic n'existait pas dans son pays. Eh bien si, le Maroc, comme tous les pays, est confronté à ce problème. Sur les 10 premiers mois de 2017, les autorités marocaines ont arrêté 52 personnes impliquées dans des trafics et saisi plus de 32 000 médicaments de contrebande. Et le 14 février dernier, tout récemment donc, 25 millions de comprimés de tramadol destinés au marché africain ont été saisis au port de Tanger. Le tramadol étant, je le rappelle, un analgésique souvent utilisé comme drogue. Mais le Maroc n'est pas le pays le plus touché par ce trafic. Selon l'OMS, 10% des médicaments dans le monde seraient falsifiés, mais jusqu'à 30% en Afrique et pas loin de 60% dans des pays en guerre comme la République centrafricaine. Alors ces chiffres ne sont que des estimations puisqu'il s'agit de trafic, mais ils donnent une idée de l'ampleur du phénomène en Afrique.
Alors, vous l'avez dit, tous les pays sont concernés.
Oui, grâce à sa base de données, l'OMS a identifié 3 critères qui favorisent le trafic de médicaments falsifiés. Le problème d'accès aux médicaments, la mauvaise gouvernance et le problème d'incapacité technique. C'est-à-dire, dès qu'il y a un problème de réglementation du médicament ou un problème d'application des lois ou un problème avec les autorités qui doivent protéger le public, il suffit d'un seul de ces critères pour qu'il y ait un risque de présence de faux médicaments et de nombreux pays africains ont ces 3 handicaps.
Alors, parmi les nombreux ministres présents au Maroc, il y avait le professeur Nicolas Méda, ministre de la Santé du Burkina Faso.
Certains sujet d'actualité au Burkina Faso, nous sommes conscients. Et vous savez ce qui se passe dans la zone des 3 frontières, comme on dit, Mali, Niger, Burkina. C'est comme le triangle de Bermude, la zone de tous les trafics. Cigarettes, médicaments, drogues. Et donc, avec les autres pays, Togo, Bénin, qui ont des ports, Ghana, rentrent tous les faux médicaments. Donc, c'est un problème pour lequel nous avons conscience qu'il faut agir. Il faut disposer d'outils, d'agence nationale de régulation pharmaceutique. Il faut disposer de compétences, il faut disposer de ressources pour la vérification de la qualité. Il faut disposer d'un arsenal répressif dissuasif et il faut certainement sensibiliser la population pour que cette population tourne le dos aux médicaments de la rue. Et pour faire cela, il faut développer le pouvoir d'achat de la population parce que le pouvoir d'achat de certaines franges de la population ne leur permet pas d'avoir accès à ces médicaments de qualité. Cette résolution va permettre au Burkina Faso d'avoir accès à un centre de ressources où il y a des lois types qui pourront inspirer le Burkina Faso à développer sa loi spécifique nationale. Et cette résolution va créer une communauté de personnes qui veulent se mettre ensemble, s'allier pour lutter contre le trafic des faux médicaments dans les pays africains.
Au niveau du renforcement des frontières, vous parliez de ce fameux triangle des Bermudes, comme vous l'avez qualifié. Est-ce que c'est prévu, ça, ce renforcement du contrôle aux frontières ?
Oui, il est justement, cette loi a prévu d'avoir tous ces instruments de traçabilité des médicaments. Interpol s'active pour former les policiers. L'Organisation mondiale des douanes aussi s'active pour former les douaniers et des outils électroniques de scannage capables d'identifier un médicament falsifié peuvent être déployés. Donc voilà à peu près tout l'arsenal. Mais aujourd'hui, au Burkina, le code pénal ne condamne qu'à seulement 3 mois quelqu'un qui est pris pour des faux médicaments. Donc il faut développer un arsenal législatif dissuasif du trafic des faux médicaments. Et cette résolution va nous inspirer pour cela.
Merci, monsieur le ministre.
Igor Strauss, d'après le ministre Nicolas Méda, la résolution de Rabat prévoit un renforcement des contrôles aux frontières. C'est évidemment une nécessité, mais cela demande des moyens logistiques et aussi des moyens humains considérables.
Oui, alors déjà en ce qui concerne les pays côtiers, il faut savoir que dans la plupart des ports africains, les douanes ne disposent pas de scanners, ce qui évidemment est problématique. Ensuite, il faut se rendre compte du nombre de navires et du nombre de containers qui entrent chaque jour dans ces ports. C'est absolument considérable. Même avec un scanner, il faudrait que les effectifs des douanes soient beaucoup plus conséquents et mieux formés. Ensuite, il faut savoir que 90% des marchandises qui arrivent dans ces ports sont déclarées en transit, à tort ou à raison d'ailleurs. Concrètement, cela signifie que les douaniers d'un pays côtier peuvent se dire que c'est aux douaniers du pays de destination de contrôler la marchandise. Maintenant, Caroline, imaginez le nombre de camions qui passent les frontières entre ces pays côtiers et les pays de l'Interland, comme on dit, comme le Burkina Faso par exemple, c'est également considérable. Aujourd'hui, Aujourd'hui, certains médicaments falsifiés sont tellement bien faits qu'il faut avoir recours à l'analyse chimique pour distinguer les vrais des faux. Cela signifie donc qu'il faudrait que les douaniers, entre le Bénin et le Burkina Faso par exemple, puissent faire des analyses chimiques lorsqu'ils ont un doute sur le chargement d'un camion, et ce, même en pleine nuit. Cela vous donne une idée de l'ampleur de la tâche.
Alors après le ministre de la Santé du Burkina Faso, c'est le docteur Edwige Okuyi-Ndakisa, directrice du médicament et de la pharmacie du Gabon, qui nous parle d'une facette de ce trafic de médicaments contrefaits et de l'intérêt de la résolution de Rabat pour son pays, donc le Gabon.
Au niveau du Gabon, pour un pays de 1,8 million d'habitants, nous avons eu un chiffre, après expertise des experts de la CEMAC, de 286 millions de dollars. Et c'est très élevé pour une petite population de 1 million d'habitants. C'est un indice qui nous a permis de dire qu'il y a trop d'importateurs. Ce chiffre nous a permis de remettre en cause les qualifications liées aux importateurs. Et là, nous avons découvert beaucoup de choses.
Là, quoi, par exemple?
Nous avons découvert qu'il y avait des gens, par exemple, une classe d'opérateurs économiques pharmaceutiques qui importaient illégalement, il faut le dire. Et la déviation du médicament, qui, effectivement, quand ils arrivaient, ils pouvaient se retrouver sur tous les marchés. Donc, nous avons donc créé des classes d'importateurs et ceux qui font de la publicité n'ont pas le droit de faire de la publicité avec des échantillons médicaux gratuits. Parce que ces échantillons, ils peuvent dire qu'ils le donnent pour pouvoir présenter leurs produits, comme ils peuvent se retrouver parallèlement sur un marché parallèle.
Alors le Gabon a signé les accords de Rabat hier, des accords qui visent à criminaliser le trafic de faux médicaments. Concrètement, qu'est-ce que ça permettra de faire au Gabon finalement?
Au niveau de Rabat, la coopération sud-sud nous sera d'une très grande importance. Parce que parmi nos faiblesses, qui avaient été relevées lors après l'analyse situationnelle des pays de la CEMAC, il y avait aussi les ruptures liées aux médicaments. Donc, au niveau de la déclaration de Rabat, nous souhaiterons renforcer nos capacités pour pouvoir disponibiliser davantage de médicaments. Parce que vous savez que le Maroc est un pays exemplaire au niveau d'Afrique, parce que vous avez avec leurs industries pharmaceutiques, qui sont assez fortes et qui montent davantage, pouvoir réfléchir comment améliorer, si vous voulez, la disponibilité des médicaments, éviter le système des ruptures, parce que quand il y a des ruptures au niveau de nos centrales d'achat...
Les ruptures sont la porte ouverte au trafic de faux médicaments.
Absolument, c'est une des raisons pourquoi la déclaration de Rabat est très importante pour nous.
Priorité santé sur RFI. Aujourd'hui, nous parlons donc de la lutte contre les médicaments falsifiés à l'occasion de la signature de la résolution de Rabat. C'était le 23 février dernier. 17 pays signataires, dont l'hôte marocain. Alors, face à ce drame, quelle est l'action de l'Organisation mondiale de la santé? Pernette Bourdillon-Estève est analyste à l'OMS au sein du programme global de surveillance et de contrôle des produits médicaux falsifiés et de qualité inférieure. On l'écoute.
À l'OMS, nous avons une réponse à la fois politique, technique et opérationnelle. Du côté un petit peu plus politique, on a le dispositif des États membres, où tous les États membres se mettent ensemble pour se mettre d'accord pour collaborer et avoir un langage commun. Et on a aussi le programme global de surveillance et de contrôle qui permet de fournir une assistance technique et opérationnelle au pays, mais également de comprendre quelles sont les forces motrices et quelles sont les solutions les plus adaptées et les plus ciblées par pays et par région.
Alors par exemple, parlons d'accessibilité, parce que peut-être que ça c'est un des critères de base quand même et qui vous concerne directement, vous MS, en quoi vous pouvez aider les pays?
Alors typiquement, problème d'accessibilité, si vous avez des ruptures de stock, ça va être un problème d'accessibilité. Donc on va aider les pays à renforcer leur capacité de prévision des stocks, savoir quand est-ce qu'il va y avoir une potentielle rupture de stock et comment faire un stop gap. On peut les mettre en relation avec différents fabricants. On a eu des problèmes de rupture de stock de la méningite, en période d'épidémie de méningite, et évidemment, des faux vaccins de méningite sont apparus à ce moment-là et on a pu mettre les pays qui étaient affectés en contact direct avec des fabricants qui, eux, avaient des stocks pour les mettre en lien. Un autre outil que l'on a développé, qui est très concret et qui porte là plus sur le renforcement des capacités techniques, c'est une application smartphone qui vient d'être pilotée en Tanzanie et qui va être pilotée en Indonésie et qui permet aux praticiens de santé de notifier leurs autorités lorsqu'ils sont face à un produit suspect. Cette information-là reste dans les pays. Seulement si le pays le souhaite, il peut la renvoyer à l'OMS, mais ça leur permet d'avoir un outil de gestion de l'information qui est très rapide et qui est très efficace.
Une collègue, on va l'appeler ainsi, d'un pays africain, rappelait que certains organisent volontairement justement les ruptures de stock pour demander à leurs pays respectifs de s'approvisionner dans des pays voisins où il y a du trafic. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement contre ça ?
Ça, c'est la loi de l'offre et la demande. Ce qu'il faut faire là-dessus, c'est qu'il faut faire beaucoup plus de coordination et de coopération entre les différents pays et entre les différentes agences entre les différents pays. Il faut que les pays puissent parler entre eux, il faut que les pays puissent savoir quelle va être la vulnérabilité dans le pays voisin pour pouvoir se prémunir. Il faut qu'il y ait des systèmes régionaux forts qui soient soutenus par un système global qui puisse mettre les autres régions en contact les uns avec les autres.
Mais ces systèmes de contrôle demandent des moyens et malheureusement les pays africains manquent de moyens, même dans la chaîne régulière, j'ai envie de dire, d'approvisionnement du médicament. On sait que certains faux peuvent arriver faute de contrôle.
Oui, malheureusement, c'est exactement le cas. Le manque de ressources est un grand problème et c'est surtout aussi la prioritisation des ressources. Quand vous allez dans un pays africain ou un autre pays à faible ou à moyen revenu et qui doit prioriser la lutte contre les faux médicaments ou les médicaments de qualité inférieure contre, par exemple, la lutte contre le terrorisme, c'est dur de convaincre les autorités politiques. Mais il s'agit de la protection de la santé publique et il faut vraiment motiver les forces politiques pour que les actions sur le terrain soient durables.
Igor Strauss, certains professionnels du médicament font en sorte de créer des ruptures de stock dans leur propre pays pour s'alimenter sur le marché du médicament falsifié d'un pays voisin. Ça paraît complètement incroyable.
Oui, mais c'est pourtant une triste réalité. Alors, je me suis engagé à ne pas citer à l'antenne le pays dans lequel des responsables de la pharmacie peu scrupuleux ont créé cette rupture de stock volontaire. Mais leur but était clair et ils faisaient pression pour se réapprovisionner au Bénin.
Alors, vous parlez du Bénin, Igor Strauss, mais il ne s'agit pas de stigmatiser ce pays qui mène différentes actions justement pour lutter contre ce trafic de médicaments falsifiés.
Tout à fait. Pour comprendre la situation, il faut rappeler que le port de Cotonou est un port en eau profonde. C'est-à-dire qu'il peut accueillir ces énormes porte-containers. Ce n'est pas le cas de tous les ports africains et cela signifie qu'un nombre extrêmement important de marchandises arrive dans ce port, dont des faux médicaments. Mais le pays agit à différents niveaux. En juin dernier, lors de l'opération Assim 2, organisée par l'Organisation mondiale des douanes dans différents pays africains pour lutter contre ce trafic, j'ai eu l'occasion de suivre les douanes béninoises qui ont fait des saisies records de médicaments falsifiés. Alors parmi les prises, deux containers de tramadol, encore lui, qui étaient surdosés, donc non compatibles avec la législation du Bénin, et un container de faux antipaludéens, ce qui est grave quand on connaît les ravages du paludisme en Afrique, Caroline.
Oui, puisque rappelons-le, Igor, parmi les médicaments contrefaits, il y a de nombreux médicaments sous-dosés en principe actif, ce qui entraîne des résistances au traitement. Et dans le cas du paludisme, c'est grave puisque le seul traitement efficace aujourd'hui, c'est l'artémisinine en combinaison thérapeutique. Si ce traitement devient inefficace, il ne pourra pas être remplacé. Voilà pour la précision. Mais revenons-en aux actions du Bénin, Igor.
Alors, le Bénin a également fait des saisies énormes de médicaments contrefaits dans le grand marché d'Atokpa, que tous les Béninois connaissent. J'ai pu visiter les deux hangars où ces faux médicaments sont entreposés. C'est assez impressionnant. Il y a tout type de faux médicaments pour toutes les pathologies imaginables. Et puis, et c'est assez rare pour être souligné, il y a un procès à Cotonou qui a été reporté au 6 mars contre 10 suspects, dont des responsables des plus grandes compagnies pharmaceutiques du pays. Le directeur des pharmacies, des médicaments et des explorations diagnostiques, le DPMED, est également poursuivi, mais sans mandat, pour abus de fonction. On lui reproche de n'avoir rien fait pour empêcher ce trafic. Et enfin, ce procès implique également deux collaborateurs d'un député de l'opposition, Atao Inuo, qui lui est introuvable pour le moment.
Alors on suit bien sûr ce procès sur RFI. Restez avec nous, on se retrouve dans un peu plus de 3 minutes après le point de l'actualité pour la suite de cette émission consacrée consacré à la résolution de Rabat pour intensifier la lutte contre le trafic de médicaments falsifiés, toujours en votre compagnie, Igor Strauss.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons de la résolution de Rabat qui avait été signée le 23 février dernier, des accords bilatéraux entre le Maroc et 16 pays africains pour renforcer la lutte contre le trafic de médicaments contrefaits, criminaliser aussi ce délit qui reste impuni dans de très nombreux pays. Alors plus qu'une nécessité, c'est un devoir quand on sait, grâce aux données de l'OMS, que ces médicaments de la rue tuent chaque année plus de 700 000 personnes. L'initiative du Maroc permet donc de rappeler aux chefs d'État africains qu'il faut agir à tous les niveaux pour lutter contre ce fléau. Alors que permettra cette résolution de Rabat? Qu'est-ce qui a évolué en matière de lutte contre ces médicaments falsifiés sur le continent? Suite du compte-rendu d'Igor Strauss, qui était à Rabat pour Priorité Santé. Parmi les 9 ministres présents au Maroc pour la signature de cette résolution de Rabat, il y avait Raymond Goudou Kofi, ministre de la Santé de la Côte d'Ivoire.
Les saisies, pour moi, c'est bien. C'est une très bonne chose, mais si nous n'allons pas au fond, à l'origine même de l'entrée de ces médicaments, c'est comme si nous ne faisons rien. Nous avons fait des saisies sur place la dernière fois. La police sanitaire et la police nationale ont saisi et arrêté des personnes qui fabriquaient dans l'arrière-cour d'une imprimerie des médicaments. On a retrouvé des géluliers, des compresseurs et tout.
On a vu des images lors de cette conférence, justement.
Voilà, justement. Et donc, ces personnes ont été saisies, arrêtées. Donc, vous voyez, on se rend compte, en fait, que en dehors des entrées terre, mer et j'allais dire aérien, qu'il y a des fabrications même de ces médicaments-là sur le territoire ivoirien. Alors, donc, je veux dire que le problème, il se présente maintenant autrement. Donc, il faut que ce problème soit porté réellement à l'attention de nos chefs d'État et pouvoir vraiment agir. Moi, vraiment, c'est mon souhait.
Alors, vous avez mené deux actions très concrètes. L'une, c'est la fermeture du marché du faux médicament de Roxy. Mm-hmm. Est-ce que ça a une réelle incidence sur le trafic de faux médicaments? Et vous évoquiez tout à l'heure le Cotramed, mm-hmm. qui, il y a 6-7 mois, lorsque je les ai rencontrés, me disait qu'il n'était pas pourvu d'assez de moyens pour agir très concrètement. Mm-hmm. Est-ce que vous avez remédié à ce problème de moyens du Cotramed?
Alors, la difficulté que nous avions eue pour le Cotramed, c'est que malheureusement, nous n'avions pas inscrit au budget de l'État les interventions de Cotramed sur le terrain. Donc il fallait procéder à cela et c'est ce que nous avons fait.
Et concernant la fermeture du marché de Roxy, justement, à l'époque, vous disiez que vous ne souhaitiez pas pénaliser les petites vendeuses, que vous souhaitiez leur trouver un autre travail, en faire des couturières ou des métiers comme ça. Mm-hmm. Qu'en est-il depuis la fermeture?
Alors, donc, disons que fermeture, mais recolonisation. Ça, je dois le dire, honnêtement. Mais concernant ces femmes, elles ont été sensibilisées dans ce sens. Mais voyez-vous, lorsqu'on discute avec certaines, elles se disent que c'est plus intéressant pour elles, le marché est plus juteux, excusez-moi le terme, mais c'est pour qu'on puisse se comprendre que le marché est plus intéressant que d'aller aujourd'hui aller faire de la couture, ou bien sûr, elles n'auront peut-être pas des ressources aussi importantes que ce qu'elles ont actuellement. Mais voyez-vous, je pense que c'est progressivement que nous allons avoir des résultats. Fermer Roxy, fermer certains centres, est-ce que ça les empêche pour autant de vendre les médicaments à domicile? On a fait des saisies à domicile. Mais je pense que l'axe prioritaire pour moi, c'est vraiment de mettre l'accent sur le coût des médicaments, sur les génériques et puis la production locale. Parce que en produisant localement, les médicaments seront moins chers, effectivement, plutôt que de les importer. Et puis, il y a aussi la qualité, que nous aurons la possibilité sur place de mieux gérer la qualité, de mieux gérer la toxicité. Ensuite, ce que nous pouvons également faire, c'est que nous devons continuer de rassurer les populations en leur demandant de fréquenter encore plus les officines privées. Et puis, demander aux officines privées, bien sûr, mais nous allons mettre de ce côté-là, nous sommes en train d'y travailler, de faire en sorte que les génériques soient beaucoup plus utilisés que les médicaments à indication commune qui, évidemment, ont toujours un coût.
Merci, madame la ministre.
C'est moi. Merci beaucoup.
Igor Strauss, revenons avec vous sur les propos de la ministre ivoirienne. On l'a entendu, elle avait souhaité fermer le marché Roxy, le marché du faux médicament. Mais les vendeurs, eh bien, ils sont revenus.
Oui, et c'est pareil dans tous les pays. Si l'on veut que les gens arrêtent d'acheter ces produits falsifiés, il faut absolument qu'ils ne soient plus en vente libre. Ça, c'est le raisonnement qu'ont tous les États. Il y a quelques années, c'est le Sénégal qui avait voulu fermer son marché. Malheureusement, cela n'empêche pas le trafic, qui continue, mais de façon cachée, donc plus difficilement contrôlable par les autorités. Et si cela continue, bah, c'est parce qu'il y a un intérêt économique pour les vendeurs. On ne devient pas vendeur de faux médicaments par plaisir, mais par nécessité. Ensuite, lorsque l'on veut fermer un marché et que l'on fait des saisies, eh bien, que deviennent ces médicaments? On parlait du manque de moyens du Cotramed, le comité de lutte contre le trafic illicite et la contrefaçon des médicaments, avec la ministre de Côte d'Ivoire. Quand je les avais rencontrés il y a un an, ils m'expliquaient qu'ils n'avaient pas les moyens de détruire les médicaments saisis, car l'incinération, quand elle est possible, coûte extrêmement cher. Il y a donc des problèmes de destruction et de stockage qui embarrassent énormément les autorités.
Et puis Igor, après ces saisies, il peut aussi y avoir des décisions assez surprenantes.
Oui, en juillet dernier, le Sénégal a mené en coopération avec Interpol une vaste opération de lutte contre le trafic de médicaments falsifiés qui a abouti à la saisie de plusieurs tonnes de faux médicaments et à l'interpellation de nombreux vendeurs de rue. Mais moins d'un mois après cette opération, eh bien, la gendarmerie a relâché les revendeurs interpellés et les faux médicaments saisis leur ont été restitués, ce qui a évidemment provoqué la colère des pharmaciens sénégalais.
Alors, fermer les marchés, saisir des marchandises, c'est loin de régler le problème. La ministre insistait également sur la fabrication de médicaments sur le continent africain et sur la généralisation des génériques.
Oui, ça c'est essentiel. Hein. Développer l'industrie du médicament sur le continent, c'est vraiment le rêve de beaucoup de pharmaciens, mais cela a un coût. Quant aux médicaments génériques, il est fondamental de communiquer davantage dessus. J'ai suivi personnellement des acheteurs de faux médicaments à Roxy en Côte d'Ivoire ou à Tokpa au Bénin qui me disaient tous qu'ils achetaient là-bas car les prix étaient plus faibles. Or, c'est faux, Caroline. Je les ai ensuite emmenés dans des vraies pharmacies où des médicaments génériques vendus à l'unité étaient moins chers que les faux. Il faut donc communiquer sur le coût des génériques. Les faux médicaments ne sont pas forcément moins chers et en plus ils peuvent tuer. Les gens ne sont pas idiots. Si on leur explique, ils comprendront.
Alors, on vient d'évoquer ce qui se passe du côté du Burkina Faso, du côté du Bénin, de la Côte d'Ivoire également. Maintenant, on va parler du Sénégal. Quelles sont les actions menées là-bas pour lutter contre ce trafic de faux médicaments? Abdoulaye Diouf Sarr est le ministre de la Santé du Sénégal.
Au Sénégal particulièrement, notre préoccupation, c'est de faire en sorte que la problématique de la qualité de manière globale adresse principalement les médicaments. Nous sommes en train effectivement de nous battre en termes donc de contrôle qualité, déjà par le biais de la direction de la pharmacie et du médicament, mais aussi par le laboratoire national de qualité qui adresse toutes ces questions liées à la qualité. Récemment, avec le secteur privé, avec les associations consuméristes, mais avec tous les acteurs qui gravitent autour du système de contrôle, nous avons mis en place une commission nationale qui se charge de contrôler effectivement et de contrôler la distribution des médicaments. Vous vous souvenez, il y a quelque temps, le Sénégal a fait une saisie extrêmement importante de faux médicaments, si j'ose m'exprimer ainsi, d'une valeur de 1 milliard de francs CFA, qui a défrayé la chronique. Et depuis, tout ce qui est en tout cas en notre faveur, en termes donc de contrôle, en termes de coordination de la répression, est mis en place pour avoir effectivement au Sénégal la garantie d'avoir un médicament de qualité.
Une des solutions pourrait être la couverture maladie universelle. Est-ce que le Sénégal progresse en ce sens?
Ah oui, la couverture maladie universelle est une politique extrêmement importante de son Excellence le Président Macky Sall, qui en tout cas a adressé très tôt la question de la demande. L'offre de santé est une chose dans la stratégie de la couverture sanitaire universelle, mais en face de l'offre, il faut une demande de santé accessible financièrement, l'accès effectivement aux structures de santé. Et la couverture maladie universelle s'est donné pour objectif de couvrir le pays à 75%. Aujourd'hui, il y a des zones du pays, notamment dans la zone de Sokone, où on a atteint 69%, mais de manière générale, on peut dire que nous avons effectivement un taux de 46 voire 47%, ce qui quand même est une très bonne chose. Et aujourd'hui, toutes les stratégies sont en train d'être menées pour accentuer la communication. La semaine dernière déjà, deux stratégies ont été lancées, la CIMU Élève et la CIMU Dara. Et nous espérons que dans les mois qui viennent, le taux de 75% sera atteint.
Igor Strauss, la couverture maladie universelle pourrait jouer un rôle essentiel dans cette lutte contre ce trafic.
Évidemment, ce serait la solution idéale même, mais très difficile à mettre en place en raison du coût, encore une fois. Pour l'instant, seuls le Sénégal et le Rwanda ont plus ou moins réussi à la mettre en place.
Priorité santé sur RFI. Aujourd'hui, nous parlons de la lutte contre les médicaments falsifiés à l'occasion de la signature de la résolution de Rabat. C'était le 23 février dernier, des accords bilatéraux conclus entre le Maroc et 16 pays africains. Alors, lors de la signature, il a beaucoup été question de la criminalisation du trafic de médicaments falsifiés. Nous y reviendrons dans quelques instants avec la convention Medicrim. Mais quels sont les textes en vigueur dans les pays africains? Les textes de loi sont-ils respectés? Tout de suite, l'exemple du Cameroun qui est assez parlant. Marie-Lise Loudan est inspecteure générale des services pharmaceutiques et des laboratoires du Cameroun.
Au Cameroun, nous le vivons au vu et au su de tout le monde. Nous avons beaucoup de camions qui traversent les frontières pleins de médicaments. Nous avons des entrées illicites au niveau des ports et même des aéroports. Lorsqu'on observe, on a l'impression que malgré les actions que nous menons, le mal va grandissant.
Comment vous l'expliquez ça justement? Et quels sont les points faibles du Cameroun?
Les gros points faibles, c'est d'abord la faiblesse de nos réglementations. C'est vrai que depuis 2016, le nouveau code pénal a prévu un article qui réprime fortement la vente illicite du médicament. Mais je pense que sa mise en application n'est pas encore ce qu'on attendrait. Nous avons également un gros problème de porosité de nos frontières, de conflits d'intérêts. Ça, on ne peut pas le nier.
C'est-à-dire?
Quelquefois, nos actions butent à une non-adhésion à un certain niveau. Et quelquefois, des personnes sur lesquelles vous comptez,
Mais soyez plus concrète, expliquez-nous concrètement.
Non. On pourrait davantage mettre ça sur le coup de l'ignorance des méfaits de ces faux médicaments. Parce que je pense que quelqu'un qui sait que ces médicaments tuent ne peut pas s'amuser à être laxiste dans son travail. Je veux dire aux frontières, je veux dire même les laisser prospérer dans la rue. Est-ce une tolérance administrative? Les textes prévoient des articles qui répriment durement ça et qui interdisent la vente, l'étalage des médicaments sur la rue, dans les marchés, à toute personne, même titulaire du diplôme de pharmacien. Mais comment expliquez-vous qu'on voit prospérer ce marché?
C'est à vous que je pose la question. Il y a un certain laxisme, il y a de la connivence, il y a quoi?
Il n'y a pas de prise véritable de conscience. Il y a même qu'on n'a pas suffisamment puni les acteurs jusqu'ici.
Vous êtes en train de me dire qu'il y a un cadre législatif, mais que de toute façon, personne n'est puni. Donc finalement, à quoi ça sert qu'il y ait des lois?
Pas personne.
Il y a déjà eu des condamnations au Cameroun?
Il y a eu quelques condamnations, nous avons des statistiques. Et il n'y a pas suffisamment de publicité autour de ces cas pour que ça serve de cas d'exemple. Mais nous pensons qu'il faille renforcer davantage la législation. On ne doit pas se contenter d'un seul article qui réprime davantage la vente illicite. Il faut prendre tous les contours du phénomène de contrefaçon du médicament.
Thank you.
Igor Strauss, alors il y a 8 ans, le premier instrument juridique criminalisant le trafic de faux médicaments a été créé. C'est ce que l'on appelle la convention Medicrim. De quoi s'agit-il exactement ?
Bien, cette convention Medicrim a été adoptée par le comité des ministres des 47 États du Conseil de l'Europe en 2010. C'est aujourd'hui le seul outil international qui criminalise la contrefaçon, mais aussi la fabrication et la distribution de produits médicaux mis sur le marché sans autorisation ou en violation des normes de sécurité. 27 pays l'ont signé à ce jour, dont la Guinée-Conakry, le Maroc et le Burkina Faso, mais seuls 9 pays parmi ces 27 l'ont ensuite ratifié. La Guinée-Conakry est le seul pays africain à l'avoir ratifié, c'était le 24 septembre 2015. Alors concrètement, que permet cette convention ? Comment expliquer que seuls 3 pays africains l'aient signée ? Quelles sont les mesures préalables à mettre en place avant de la signer ? Le lieutenant-colonel Christian Tournier est adjoint au chef de l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique qui dépend du ministère de l'Intérieur.
Si on a un cadre pénal suffisant dans différents pays d'une même région, eh bien on va pouvoir échanger d'informations dans le cadre de ce qu'on appelle la coopération judiciaire et la coopération policière. Mais je reviens encore sur le fait que si le cadre légal n'est pas le même, si on n'a pas le même niveau, si vous voulez, de perception de la gravité, on va avoir une distorsion entre les définitions des infractions sur tous les niveaux des peines. Donc d'un côté, on sera peut-être que sur deux. Pour illustrer, je force un petit peu le trait, on sera sur des contraventions, hein, ou de petits délits, pour lesquels c'est pas suffisant pour qu'on échange de l'information. Et dans un autre pays, on sera sur un niveau délit grave, voire criminel. Et à ce moment-là, on pourra échanger de l'information parce que le cadre s'y prêtera.
Alors la convention Medicrim, c'est très bien, mais à condition que tous les États la signent, puisque les contrebandiers ne sont pas stupides, ils savent que si un pays ne l'a pas signé, ils iront dans ce pays et arrêteront d'aller dans le pays qui l'a signé. Ça peut poser problème.
La question, c'est pourquoi des pays ont ratifié et pas d'autres non. Bon, après, il faut savoir d'où on part. Il faut d'abord faire un état des lieux de la législation. Après avoir fait les lieux de la législation, c'est envisager effectivement des amendements à cette législation pour qu'elle corresponde à la convention Medicrim. Alors, c'est plus ou moins rapide. On est dans un rythme normal. Là où on doit attendre davantage d'efforts aujourd'hui, c'est sur le signal par lequel on va dire, en signant la convention, je m'engage à le faire, voire même de demander l'assistance aux organisations internationales de pays qui ont déjà ratifié la convention pour avoir une expertise technique. Il ne s'agit pas de faire du copier-coller de Medicrim, il s'agit bien de l'adapter par rapport à sa même législation pour avoir un rapprochement des lois nationales. À ce moment-là, on peut se poser la question, effectivement, pourquoi il n'y a pas plus de pays qui l'aient signé ?
Alors il faut signer, puis ratifier et ensuite appliquer. Et là on arrive à un autre problème. Certains États l'ont ratifié, mais par absence de moyens ou de en raison d'une trop forte corruption, il n'y a pas de peine qui aboutisse. Les criminels ne sont toujours pas condamnés.
Alors c'est une question de formation de tous les acteurs, y compris les acteurs de la santé, pour qu'ils puissent détecter ce problème de falsification. Après, c'est former les acteurs de la police, de la douane et de la justice. Bon, ce sont des processus qui sont soutenus par les organisations internationales pour effectivement relever le niveau de connaissance et développer des méthodes d'enquête. Et ensuite, effectivement, il va y avoir ce qu'on appelle un mécanisme de suivi, c'est-à-dire que il va y avoir des évaluations pour aller voir l'effectivité de la mise en œuvre. C'est aussi de développer des capacités pour mener des enquêtes financières, parce que très souvent, aller rechercher des preuves à partir d'éléments économiques et financiers. Et puis, dans les pays où la vente illicite de médicaments sur Internet est quelque chose de prégnant, c'est aussi d'avoir des enquêteurs capables de mener des enquêtes de cybercriminalité. Alors, l'effectivité, après, c'est effectivement de s'assurer qu'on n'ait pas un trop grand gap entre ce qui est prévu par le législateur et ce qui va être prononcé. Après, ça veut dire aussi que les magistrats doivent être mieux formés à ce à quoi nous nous engageons aujourd'hui dans la lutte contre les médicaments falsifiés.
Merci beaucoup. Voilà.
Igor Strauss, en résumé, pourquoi est-ce si compliqué à mettre en place?
Eh bien déjà, quand on parle de droit, il faut être précis avec les termes. Définir ce qu'est un médicament contrefait. De façon générale, la contrefaçon, c'est une violation de la propriété intellectuelle. C'est ce qui vous est reproché si vous copiez la marque d'un sac à main ou d'un maillot de foot, par exemple. Mais pour le trafic de médicaments falsifiés, cette définition ne correspondait pas à l'ampleur du délit, puisque là, on parle de milliers de morts. Il a donc fallu définir l'infraction. Désormais, on parle de tromperie. Ensuite, vous avez entendu le lieutenant-colonel Tournier. Il faut que la convention Medicrim soit en accord avec les lois des pays qui la signent et que ces lois permettent une coopération entre les différents États. Tout cela prend donc du temps. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que si tous les États ne la ratifient pas, ça ne servira absolument à rien, puisque les trafiquants iront dans les pays qui ne l'ont pas signé, évidemment.
Et ce problème de droit et des lois dans les pays est aussi un problème dans le cadre de la lutte contre les médicaments falsifiés.
Oui, on parlait des actions menées par les douanes dans les ports africains et des saisies de faux médicaments. Mais il faut savoir qu'une grande partie de ces médicaments se retrouvent sur les marchés des faux médicaments, car les codes des douanes nationales sont souvent incomplets en matière de fraude. Comme ces marchandises arrivent en transit, elles sont retenues un moment et non saisies et finissent sur les marchés. Quant aux trafiquants, eh bien pour être inquiété, il faudrait qu'il y ait des enquêtes et donc des commissions rogatoires internationales demandées par un procureur. Mais ces commissions rogatoires doivent être payées par le pays où a eu lieu la saisie et généralement les États n'ont pas les moyens.
Igor Strauss, en guise de conclusion, on va donner la parole au professeur Marc Gentilini, que l'on ne présente plus.
Oui, c'est lui qui est à l'origine de la lutte contre ce trafic. Il était à la tête de la fondation Chirac aujourd'hui. On lui doit l'appel de Cotonou du président Chirac en 2009. Plus récemment, c'est lui qui a dit au président Macron de parler de faux médicaments lors de sa visite à Ouagadougou. Il souhaite, comme de nombreux acteurs de la lutte contre ce trafic, que les chefs d'État s'emparent du sujet. Mais cela est compliqué. Il a rencontré récemment le président du Libéria, George Weah, lors de sa venue à Paris. Malheureusement, Mathilde dit, George Weah avait d'autres préoccupations que le trafic de faux médicaments.
Beaucoup de choses ont été faites. Malheureusement, ce que font les gens de bonne volonté est moins rapide que ce que font les trafiquants. Il faut changer de vitesse. Il faut qu'il y ait une mobilisation générale et internationale. Ce que vient de faire le Maroc est très intéressant parce que c'est une coopération sud-sud renforcée.
Et qu'est-ce que ça va changer concrètement?
Ça va changer quand même qu'il y a un rappel à l'ordre des décideurs que sont les chefs d'État. Donc on ne peut que se réjouir de ce qui vient de se passer à Rabat. Mais l'Organisation mondiale de la santé n'a pas été à la hauteur du défi parce que depuis 1988, elle s'est tue pendant 18 ans. Et il a fallu
donc
que...
de 88 à 2006, ensuite il y a eu un petit réveil, puis elle s'est réendormie. C'est ce que vous nous avez expliqué lors de votre exposé.
Elle s'est réendormie, elle se réveille maintenant, et encore une fois c'est très bien, mais mon plaidoyer, il est pour que non seulement l'OMS se réveille complètement, mais que les moyens que l'OMS doit détacher pour la lutte contre les trafiquants soient renforcés. Et ce n'est pas le cas actuellement. L'Organisation mondiale de la santé est un outil politique, chacun le sait. Ce sont les États qui commandent. Il faut convertir les grands États à la lutte contre le trafic. Seulement, ça a des conséquences sociales, comme quand on arrête sur les marchés les gens qui s'occupent de la vente des faux médicaments, les petits dealers qui vivent de ça, ou même les marchandes un peu mieux installées. Qu'est-ce qu'on va faire de ces gens?
Mais là, vous touchez un point fondamental. On parle de ce trafic et du secteur informel. Qu'est-ce qu'on vend dans l'informel? C'est du faux. De nombreuses personnes en Afrique vivent de l'informel et donc du faux. Si on les prive de ces revenus, que vont-ils devenir? Est-ce que c'est pour ça que certains chefs d'État sont frileux et hésitent à s'emparer de ce problème des faux médicaments? Est-ce que c'est par peur des répercussions sociales?
Je crois que c'est plus sévère, c'est que les chefs d'État d'un grand nombre de pays africains ne mettent pas la santé en première ligne. À chaque fois que je vois un chef d'État, je lui dis, Monsieur le Président, les 2% que vous consacrez à la santé sont insuffisants. Il faut aller au-delà de ça. Vous avez pris des résolutions groupées en disant on va atteindre 9%, mais vous ne les tenez pas. Donc c'est extrêmement grave. Tant que les responsables politiques ne comprendront pas que la santé de leur population est un élément important pour le développement durable, on ne parviendra pas à faire comprendre que le trafic des faux médicaments doit être considéré comme une priorité.
Absence de volonté politique, absence de législation, on en parlait avec la convention Medicrim, avec les accords de Rabat, gros problème de corruption, frontières qui sont quelque peu des passoires, mais vous parlez quand même d'évolution, on a du mal à le croire.
Si, il y a une prise de position, il n'y a pas une indifférence totale de la part des chefs d'État, il y a maintenant une sensibilisation qui les a profondément atteints, et je suis persuadé qu'ils sont conscients de ce problème. Ils ne savent pas par quel bout le prendre, parce qu'ils n'ont pas les moyens de le maîtriser. Et notre devoir, c'est de les aider, de leur apporter les outils juridiques, l'argent éventuellement nécessaire pour renforcer leurs moyens de contrainte, et l'exercice prégnant sur un certain nombre d'acteurs, en particulier sur les firmes pharmaceutiques, pour qu'elles envisagent la baisse du prix des médicaments, qui est beaucoup trop élevé, à mon sens, sans que ça altère pour autant la qualité de la recherche, la qualité du médicament préparé. Mais il faut qu'il y ait une mobilisation de tous les acteurs. C'est ça qui est difficile à obtenir.
Merci, professeur.
Merci aussi.
Merci Igor Strauss pour ce reportage réalisé par Didier Bleu. Demain, dans Priorité Santé, nous parlerons des maladies rénales. L'émission sera présentée par Sandrine Mercier. À demain.
C'était Priorité Santé, avec Suno Assurance qui vous recommande d'avoir une épargne sécurisée pour assurer vos projets en toutes circonstances. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.